Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Je les soutiens. Gérald Darmanin affirme soutenir les maires de Nice et Béziers qui ont instauré un couvre-feu pour les jeunes de moins de 13 ans qui traînent le soir dans la rue après 23 heures. Ils seront raccompagnés chez eux. Ils doivent être chez eux. Ils doivent dormir. Ils doivent aller le lendemain à l'école, a martelé le ministre de l'Intérieur. Alors question, le couvre-feu pour les moins de 13 ans, voire les mineurs comme en Guadeloupe, est-il la solution face à la montée de la violence au sein d'une partie de la jeunesse? Quels sont les ressorts de cette ultra-violence qu'on a vue se déchaîner à Grande-Synthe, par exemple, de la part d'adolescents âgés de seulement 14 et 15 ans? Faut-il incriminer des parents défaillants, les réseaux sociaux, un délitement de l'autorité? Et quelle réponse y apporter? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Couvre-feu, internat, comment rétablir l'autorité ?». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy, directeur délégué et éditorialiste à la Tribune Dimanche, à retrouver dans votre journal ce week-end une interview du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sur les réponses à apporter à ces violences. Étienne Girard, vous êtes rédacteur en chef du service Société à l'Express. Marie-Estelle Pêche, vous êtes rédactrice en chef du service Société à Marianne. Vous êtes spécialiste des questions d'éducation. Et Driss Aït Youssef, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité globale. Merci de participer à cette émission en direct. Driss Aït Youssef, Gérald Darmanin, il n'est pas normal que des enfants, des adolescents, des mineurs soient dans la rue à minuit, 1h, 2h du matin. Ils doivent être chez eux, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, que dit la loi et en quoi consistent ces couvre-feux, qui sont différents d'ailleurs, suivant que c'est en Guadeloupe, à Nice ou à Béziers, hein.
Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a, vous avez une disposition, étant entendu que le Conseil d'État de jurisprudence constante qui date de 1917, qui indique que la liberté est la règle, la restriction, l'exception. Donc un préfet ou un maire peut prendre un arrêté préfectoral ou un arrêté municipal, qui vise justement à interdire pour des mineurs le fait qu'ils soient sur la voie publique à partir d'une certaine heure. Pour autant, il faut que ça fasse l'objet d'une motivation précise. Ça veut dire, c'est pour combien de temps? Ça ne peut pas être non plus indéterminé. C'est qui? Les mineurs. Et ensuite, il faut sur quelle partie du territoire? Ça ne peut pas être sur la totalité de la commune. Plus c'est large, plus c'est compliqué à motiver. Et ensuite, il faut expliquer pourquoi. C'est-à-dire que si vous considérez que vous n'avez pas une augmentation spectaculaire de la délinquance impliquant des jeunes, à ce moment-là, vous pouvez avoir, comme ça a déjà été le cas, un Conseil d'État qui va vous dire, notamment pour la ville de Béziers qui avait pris un arrêté en 2014, dire que vous ne justifiez pas finalement de cet arrêté. Donc vous avez à la fois l'État qui peut prendre un arrêté ou le maire de la commune qui également peut prendre un arrêté.
Alors aujourd'hui, néanmoins, la loi dit que les moins de 16 ans non accompagné d'un parent ou d'une personne responsable ne peut pas sortir le soir après minuit. Question de Jérôme, qui est gendarme. C'est bien beau de mettre un couvre-feu pour les moins de 13 ans, mais nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour tout surveiller. Est-ce qu'il n'y a pas la question ensuite de faire exécuter ces couvre-feux? Je pense notamment à la Guadeloupe,
bien sûr,
qui pose un couvre-feu très strict parce que c'est après 20 heures. Et pour tous les mineurs, donc après 20 heures, si vous avez moins de 18 ans, vous devez être chez vous. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces couvre-feux ne soient pas appliqués? Dans quel cas, c'est l'autorité de l'État qui est bafouée?
Alors c'est même plus large que ça, parce qu'y compris sur la France métropolitaine, la difficulté, c'est que vous mobilisez des services de police, de gendarmerie ou police municipale, il faut appréhender donc le jeune, le conduire au commissariat lorsque vous avez un doute raisonnable sur le fait qu'il ait moins de 18 ans ou moins de 13 ans, procéder à une vérification, c'est-à-dire que vous allez appeler les parents pour vérifier s'il n'a pas une pièce d'identité sur lui, et une fois que c'est fait, lorsque vous prenez un arrêté, vous avez une obligation. Si vous ne respectez pas cette obligation, c'est-à-dire l'interdiction, vous avez des sanctions. Donc appelez le procureur de la République, et évidemment, le cas échéant, le procureur de la République peut saisir le juge pour enfants. Donc la difficulté, c'est que les policiers ont déjà suffisamment de pain sur la planche, si vous me passez cette expression, pour pouvoir à un moment donné aller à la course-poursuite des jeunes qui...
Faire les nounous un peu.
Absolument. Hein. Et bien c'est la plupart des syndicats policiers disent que nous, on n'est pas là pour faire la nounou, il y a d'autres personnes qui... D'où la nécessité de faire de la prévention en amont, c'est-à-dire qu'y compris avec les médiateurs, les éducateurs, y compris les policiers, les gendarmes, ce qui a été fait à Pointe-à-Pitre, donc en Guadeloupe, aller expliquer aux parents qu'il va y avoir un couvre-feu et qu'il faut qu'ils prennent le maximum de précautions pour que leur gamin ne sorte pas après 20 heures.
Bruno, je dis, les deux villes qui, en France métropolitaine, ont instauré le couvre-feu, c'est Christian Estrosi à Nice et Robert Ménard à Béziers. Gérald Darmanin les soutient. Qu'en pense Éric Dupond-Moretti? Est-ce qu'il est à l'aise avec ce couvre-feu instauré par un Robert Ménard qui est quand même assez proche des idées d'extrême droite?
D'abord, il faut refaire un petit peu d'histoire avec ces arrêtés municipaux. Robert Ménard est le premier à avoir voulu instaurer ça sur une partie de sa commune. C'est en 2014. Le tribunal administratif de Montpellier valide. La cour d'appel de Toulouse valide. Le Conseil d'État invalide. Il a de la suite dans les idées. Et il voit le discours, il entend le discours de Gabriel Attal il y a à peu près 15 jours maintenant. Le fameux sursaut d'autorité. Et lui, dans la foulée, il dit « je vais remettre l'ouvrage sur le métier et remettre mon arrêté municipal » puisque ça colle totalement à ce qu'a dit Gabriel Attal, y compris la télévision, évoquant le fait qu'il ne fallait pas laisser les jeunes traîner dehors parce qu'ils risquaient de mauvaises fréquentations. Donc on est vraiment, dans ce qui peut finalement donner logiquement, valider la possibilité d'un couvre-feu. Christian Estrosi, sur la même ligne, ils partagent à peu près la même opinion sur le sujet. D'autres maires, Cagnes-sur-Mer, ça existe également, il y a une troisième ville plus petite, et le maire de Perpignan a aussi indiqué qu'il voulait le faire. En fait, on peut très bien avoir une généralisation de ce type de couvre-feu dans les mois qui viennent, dans les communes où il y a des difficultés avec, dans certains quartiers, avec des jeunes de moins de 16 ans qui traînent.
Sauf que Driss nous expliquait que ça doit être temporaire.
Ça doit être temporaire, mais justement, la période estivale peut, et surtout... les vacances scolaires peuvent être générer ce type d'inquiétude chez les élus qui peuvent évidemment se servir du couvre-feu comme d'une politique publique, municipale pour faire pare-feu à ces difficultés parce que c'est aussi une demande parfois des parents, hein, Éric Dupond-Moretti, vous me posez la question, qui n'est pas contre cette idée. Lui-même, il dit, quand il est allé à Nice, par exemple, on en parlera plus tard, dans ce lycée, dans cet internat, il dit, c'est les parents qui me remerciaient. Les parents nous remercient, les parents dépassés parfois leurs enfants. Il y a les parents défaillants, et il y a les parents dépassés. Et à l'arrivée, c'est aussi une difficulté, parfois, de tenir les gosses. Comme l'a dit avec cette formule qui est restée, qui est passée à la postérité, pendant les émeutes du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, demandant aux parents, tenez vos gosses, parce qu'on se souvient, il y a un peu moins d'un an, la France avec ses jeunes. Ces émeutiers, 50 000 émeutiers, hein, ça a été documenté par le Sénat, dont une grande partie de mineurs, hein, 50 000 émeutiers sur l'ensemble des villes concernées. Donc c'est quand même un phénomène qui est important de ces jeunes qui sont dans les rues et qui échappent au fond au contrôle des parents. Encore une fois, parents défaillants ou parents dépassés, je fais la nuance parce que c'est pas tout à fait la même chose.
Étienne Virard, Éric Dupond-Moretti, la délinquance des mineurs est plus violente qu'autrefois. Fois, on ne peut pas rester les bras ballants. Ces couvre-feux et ces soutiens du gouvernement, c'est une réponse politique, en partie, à ces émeutes de juin dernier qui avaient choqué la France et auxquelles on a l'impression qu'il n'y a pas eu tellement de réponses.
Il y a eu quand même des réponses, y compris à l'égard des parents. Ça avait été annoncé par Éric Dupond-Moretti. Il y a eu des condamnations de parents défaillants ou dépassés. Il y en a eu plus de 300. Éric Dupond-Moretti l'a annoncé au début du mois d'avril. Depuis les émeutes, il y a eu des réponses. En termes de politique publique, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réponse globale ou perçue comme répondant réellement à cette problématique des mineurs qui traînent dans les rues, qui défient l'autorité, voire qui sont plus violents, même si... Ce constat-là, il n'est pas forcément corroboré par des chiffres extrêmement objectivables, mais il y a un problème qui va se poser au gouvernement et aux forces de sécurité. C'est ce que disait d'ailleurs le gendarme qui posait une question assez dans l'air. C'est comment on fait appliquer concrètement cette mesure si elle s'étend sur beaucoup de territoires. Tout simplement, on a plus de mineurs que de policiers et de gendarmes qui seront affectés aux tâches de vérifier le couvre-feu. Donc, les policiers ne pourront pas raccompagner tous les mineurs chez eux. Ils ne peuvent pas non plus convoquer tous les mineurs, toutes les personnes, tous les jeunes qu'ils croisent au commissariat, parce qu'on comprend bien que quand ils convoquent un groupe au commissariat, ils ne peuvent pas contrôler le reste des jeunes qui traînent dans le quartier. Donc, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est déjà passé lors du confinement. Les policiers, les gendarmes, ils dresseront des PV, ils feront des verbalisations. Il y aura des amendes, les montants sont déjà prévus. Ils sont importants, je crois que c'est 700 euros d'amende, par exemple, en Guadeloupe.
On colle une amende et on dit vous rentrez chez vous.
Exactement. Mais l'amende, elle ne permet pas de faire exécuter la mesure. Donc, qu'est-ce qui s'était passé pendant le confinement ? On a des familles qui vont se retrouver avec des montants d'amende qui montent énormément. Alors, ça a un effet dissuasif sur certaines familles, sur certains jeunes, ça n'a pas d'effet dissuasif en réalité. Et pendant le confinement, on s'était retrouvé avec des jeunes qui avaient 5000 euros, parfois plus, d'amende en souffrance. Parce qu'ils continuent à traîner dans les rues, ils ne payent jamais, leur famille ne paye jamais, et l'amende n'est pas exécutée, la mesure n'est pas exécutée.
Marie-Estelle Pêche, alors il y a déjà un sondage, 67% des Français qui souhaitent la généralisation du couvre-feu pour les mineurs à partir de 23h sur l'ensemble du pays. Donc on le voit, idée populaire. Alors on vient d'entendre que c'est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais c'était ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que c'est pertinent et est-ce que c'est efficace ?
Ben, on n'a pas d'études précisément. Personne n'a jamais vraiment analysé l'efficacité de ces mesures de couvre-feu. Pourtant, on le sait. Bruno Jeudy le rappelait tout à l'heure. Déjà en 2005, hein, vous aviez pas mal de maires qui avaient mis en place lors des émeutes de 2005 des mesures de couvre-feu. On sait que ça a visiblement un intérêt lorsque le couvre-feu est court. Par exemple, Strasbourg, pendant la Saint-Sylvestre, depuis 2020, 2021, 2022, met un couvre-feu parce qu'ils savent qu'il y a énormément de voitures brûlées ce soir-là. Et la majorité, enfin peut-être pas la majorité, mais la moitié environ des personnes interpellées au moment de la Saint-Sylvestre, avant ces couvre-feux, c'était des mineurs. Et bon, ce que disent les policiers sur place, c'est que les procureurs de la République qui se sont succédés sur place, c'est que dans l'agglomération strasbourgeoise, ils avaient un peu moins de mineurs dans les rues ces jours-là. Ça peut avoir un effet dissuasif. C'est pas l'anacée, évidemment. Et on peut effectivement se dire qu'il peut y avoir une forme de dilution de l'intérêt de cette mesure. Comme le rappelle Étienne Girard, si vous étendez ça sur l'ensemble du territoire, on a vu ce que ça a donné pendant le Covid, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fraudeurs. En revanche, si c'est vraiment centralisé sur quelques quartiers, dans certaines villes, moi je ne pense pas que toutes les villes vont être demandeuses pour mettre en place des couvre-feux, que ce soit en 2005, que ce soit en 2009, chaque fois qu'il y a eu des recrudescences comme ça de violence chez les jeunes. Ça s'est resté circonscrit à certains quartiers. Voilà. Après, bien sûr, on est dans une période électorale. On sait que les Français, dans les sondages, apprécient ces mesures, en tout cas sur le papier,
d'autorité
forte, qui sont faciles à comprendre, mais qui, encore une fois, ne sont pas si évidentes que cela à mettre en place. Et on a quelques doutes sur l'efficacité, même si, bien entendu, si vous interrogez Robert Ménard, il vous dira que ça marche formidablement bien, qu'il a beaucoup moins de mineurs qui traînent dans les rues, etc., ou qu'il avait moins de mineurs qui traînaient dans les rues quand il avait mis en place cette mesure à partir de 2014.
Il faut juste ajouter à ce stade-là que le garde des Sceaux, il planche sur un projet de lutte contre la délinquance des mineurs, un deuxième projet, puisqu'il avait déjà travaillé dessus lors du mandat précédent, et qui, dont un volet portera sur l'autorité parentale. On va durcir peine de prison, amende, et ça va d'ailleurs, il y a un problème de droit qui se pose sur les parents seront responsables des actes de leurs enfants.
Donc, il veut travailler. Éric Dupond-Moretti, il s'est mis au diapason d'une réponse sécuritaire, au diapason de Gabriel Attal et Gérald Darmanin.
Ce projet-là était quand même antérieur au discours de Gabriel Attal, puisque c'est un des projets qui découle finalement de la réponse aussi des émeutes de 2023. Il est dans les tuyaux, il est en préparation, il est plutôt pour la fin de deuxième semestre 2024, mais dans le droit fil de ce que disait Étienne, c'est vraiment l'autorité parentale qui est aussi un des axes de travail du gouvernement.
Oui, Adrice.
Il y a peut-être deux éléments, c'est-à-dire que la juridiction administrative, elle opère un contrôle très strict hein, sur l'arrêté, qu'il soit municipal ou préfectoral d'abord. Elle contrôle le fait qu'il y a bien un risque s'agissant de l'ordre et la sécurité publique. Ça veut dire que en tant que maire, vous ne pouvez pas vous lever un matin en disant « tiens, je vais faire un arrêté ». C'est-à-dire que vous devez justifier.
Bah
oui. vous devez justifier une augmentation particulière de la délinquance. Et puis ce n'est pas sur l'échelle de la commune, on parle de 2014 à Béziers, 2001 il y a eu un arrêté qui a été pris par le maire d'Orléans, que le Conseil d'État a validé, sauf sur une des dispositions qu'il a retoquées, c'est-à-dire sur quatre parties du territoire, il en a retiré un seul.
Est-ce que c'est pas stigmatisant du coup à Béziers? C'est vrai qu'il y a trois quartiers qui sont visés, on se dit « ah bah moi je suis dans le quartier stigmatisé une fois de plus ».
Alors ce sont des quartiers qui répondent à des critères particuliers, par exemple il y a un contrat local de sécurité qui dit on va axer la police ici parce qu'on a de la délinquance sur ce quartier précisément. Donc ça, je pense que c'est important. Et le Conseil d'État va contrôler un deuxième moyen. Le deuxième moyen pour le Conseil, c'est de considérer que l'arrêté que vous allez prendre va régler le problème. Alors oui, quelquefois, quand il y a par exemple le Nouvel An ou quand il y a quelques émeutes, on peut, d'un point de vue conjoncturel, régler le problème, mais pas structurel. Or, aujourd'hui, on a plutôt l'impression, par rapport à Pointe-à-Pitre et dans d'autres communes, qu'on veut régler avec un arrêté un problème qui est un problème structurel, c'est-à-dire qu'une partie de la jeunesse, en fait, on impose aux parents de garder les gamins sans pour autant donner quelquefois la solution, vous l'avez parfaitement rappelé, des parents qui sont démissionnaires ou défaillants, de leur donner la possibilité de renouer la relation et de traiter à un moment donné la difficulté en profondeur.
Alors, un couvre-feu pour les mineurs, c'est donc l'arme anti-délinquance brandie par les maires de Nice et de Béziers et soutenue par Gérald Darmanin. Le gouvernement lui-même en pleine contre-attaque pour endiguer la violence chez les jeunes après les drames qui se sont succédés ces dernières semaines. C'est un sujet de Juliette Vallon et Michel Bouilly.
Patrouille secteur Raspail, rien à signaler, on se rend sur le secteur Victor Hugo.
Depuis lundi, c'est tolérance zéro et zéro sortie la nuit pour les mineurs de Béziers dans l'Hérault. Les jeunes âgés de moins de 13 ans ont désormais interdiction de circuler seuls entre 23h et 6h du matin dans trois quartiers de la ville. Le seul moyen de lutter contre la délinquance, selon son maire Robert Ménard, un temps proche du RN.
Au moment des émeutes, ici à Béziers, y compris dans un certain nombre de ces quartiers, vous auriez vu, je les ai vus sur les images, il y avait des dizaines de gamins, je dis, il y en avait qui avaient 10, 11 ans. Qu'est-ce qu'ils foutent dans la rue? Ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, ça touche les garçons mais ça touche aussi les filles et ils sont en bande.
Réaction immédiate de la gauche.
J'ai passé mon enfance à Béziers. L'été, gamin, on jouait dans la rue, sous les réverbères ou autour d'un banc à bavarder. Quel fait probant autorise le maire à interdire cette banale réalité?
Mais plusieurs villes ont déjà suivi. Nice et Penmirabeau, près de Marseille. Le ministre de l'Intérieur avait lui-même décrété un couvre-feu en Guadeloupe la semaine dernière. Hier soir, il réaffirme son soutien à la mesure.
Les mineurs, ça doit être chez eux, chez leurs parents. Et les maires qui ont la compétence pour prendre des arrêtés, en effet, comme l'État, pour empêcher ces mineurs d'être dehors, notamment les moins de 13 ans. On parle d'enfants de moins de 13 ans. Je les soutiens. Je les soutiens et les préfets de la République les soutiendront.
Le couvre-feu est-il une réponse adaptée à la délinquance juvénile? La question divise, alors que plusieurs faits de violence impliquant des mineurs s'enchaînent dans l'actualité. Samara, tabassée à Montpellier. Chemseddine, battu à mort à Viry-Châtillon. Dernière affaire en date, l'agression mortelle de Philippe, 22 ans, à Grande-Synthe, dans le Nord. Trois mineurs de 15 ans ont été mis en examen. Un choc pour les habitants de la ville, nombreux à assister aux obsèques du jeune homme mercredi.
C'est très gentil tout ça, on le connaissait, c'était pas, comme on dit, une racaille. Hein. On n'a pas le droit de partir comme ça. Un coup de barre de fer, de matraque, de hache, là, complètement défiguré et tout. Je vous dis, mais ma chien, on le tue pas comme ça.
L'ultra-violence des jeunes, devenue la priorité du gouvernement, selon Gabriel Attal, qui occupe le terrain. Après son déplacement à Viry-Châtillon jeudi dernier, le Premier ministre s'est rendu lundi à Nice. Visite d'un internat éducatif et temps de rigueur devant les caméras.
Bonjour. T'as fait des erreurs. Tu as eu une sanction, t'as été exclu. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour revenir dans le droit chemin. Donc c'est très bien que tu sois ici pour ça. Moi je souhaite qu'on arrive à un système où, lorsqu'on identifie qu'un jeune part à la dérive, on peut proposer à ses parents une place en internat, les parents ont le choix d'accepter ou non, mais que si les parents le refusent et qu'ensuite le jeune se livre à des actes de délinquance, ça puisse accroître la responsabilité des parents. Et vous savez qu'on tient beaucoup à ce sujet-là aussi, pour les parents défaillants, on puisse aller chercher davantage leurs responsabilités.
Sursaut d'autorité, affirme l'exécutif. Hypercommunication, dénonce une partie de l'opposition, pas convaincue sur le fond.
Que nos enfants aillent à l'école, de 8h à 18h, je suis pour, mais ça ne doit pas être une punition, ça ne doit pas être une mesure de justice infligée aux quartiers, par exemple, aux jeunes des quartiers. Au contraire, l'école publique que nous voulons doit être la même pour toutes et pour tous.
Le retour d'autorité du gouvernement consiste à des stages de citoyenneté pour les parents de mineurs délinquants. Mmh. Face à l'insécurité et à l'ensauvagement, qui est aussi le bilan de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron, je prône une seule attitude, la fermeté.
Après la série d'agressions impliquant des adolescents, un plan interministériel pour lutter contre l'ultra-violence des jeunes devrait être présenté dans les prochaines semaines.
Question téléspectateur Driss Aït Youssef, c'est Philippe à Paris. Donc interdiction de sortir pour les mineurs de moins de 13 ans et quartier libre pour les ados de 14 ans, n'est-ce pas aberrant? Pourquoi à 14 ans on a le droit d'aller après 23 heures, d'être le soir dehors donc?
Alors ça dépend des arrêtés, vous avez généralement la plupart des arrêtés ce sont des mineurs de moins de 18 ans.
Enfin là à Nice et à Béziers c'est moins de 13 ans.
C'est moins de 13 ans parce qu'on va considérer qu'à 13 ans vous avez cette notion qui est protégée, qui protège l'enfant, c'est le discernement, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'à moins de 13 ans le gamin, l'enfant ne fait pas preuve de discernement et qu'il peut être lui-même victime. Donc c'est pour ça que quelquefois il y a cette notion 13 ans. Et cette notion 13 ans, la réalité c'est que dans le droit français, elle protège et au fait il ne peut pas faire l'objet d'une procédure pénale, combien même il commettrait un crime ou un délit, sauf à ce que le procureur, c'est une notion qui n'est pas irréfragable, sauf si le procureur considère que dans le dossier il y a des éléments qui permettent de démontrer que le mineur de moins de 13 ans savait exactement ce qu'il faisait. Mais on va partir du principe, le principe c'est que
il n'y a pas de discernement à moins de 13 ans,
il ne sait pas ce qu'il fait.
C'est le code pénal, voilà. Bruno, Étienne Girard, on a entendu dans le reportage, je ne sais plus qui disait, moi j'habitais Béziers, le soir quand on était petit, on jouait au foot sous les réverbères, qui êtes-vous pour Monsieur Ménard pour interdire aux jeunes de sortir faire un peu de foot le samedi soir?
Oui, ça pose une bonne question qui est celle de la justification de la mesure. On ne peut pas dire c'est ma politique publique, je décide d'instaurer un couvre-feu. Il faut le justifier très précisément sur une augmentation des délits commis par des mineurs dans un périmètre particulier. Donc c'est la conditionnalité et la condition de la légalité de la mesure.
Est-ce que tout doucement on va dans un état de plus en plus sécuritaire, interdiction, vous rentrez chez vous, etc. et que c'est peut-être pas l'ADN? Vous disiez c'est la liberté et la règle, hein, et l'exception et l'interdiction. Et
c'est évidemment pas l'ADN de la République française et c'est tellement pas l'ADN de la République française que le Conseil d'État contrôle de façon assez sourcilleuse ce type d'arrêté, alors qu'ils peuvent toucher les mineurs, qui touchent aussi parfois dans certaines villes des personnes de façon géographique. Il est arrivé dans le Var très récemment, hier, qu'on interdise les Marseillais d'un certain quartier parce qu'on avait remarqué que des personnes de Marseille causaient des perturbations. Cet arrêté a été cassé. Donc on n'est pas dans ce type d'état.
Mais est-ce que quand les deux tiers des Français se disent favorables à un couvre-feu généralisé toute l'année, etc., est-ce qu'il y a une demande d'État sécuritaire, je ne vais pas dire type, on n'est pas encore la Chine, mais voilà, il y a une demande en plus de sécurité au détriment de la liberté?
Clairement, il y a dans les enquêtes d'opinion et aussi parfois dans le vote qui peut s'exprimer, on voit cette demande d'autorité particulière des citoyens. Maintenant, quand on leur demande si cette demande d'autorité, vous considérez que c'est légitime, qu'elle implique de revoir tout notre cadre juridique, il y a beaucoup plus de prudence en réalité chez les citoyens et même chez les électeurs. Ce qui est sûr, c'est que ce type de mesure, ça peut marcher. Et là, on est sur le terrain de l'efficacité que sur un temps court. Parce que sur un temps court, vous allez avoir des effectifs de police supplémentaires qui vont vous permettre, alors pas toujours de faire totalement respecter la mesure, parce que ce que je disais, les policiers, ils ne peuvent pas raccompagner chacun des jeunes chez eux, mais les policiers, ils sont présents dans ces quartiers-là. C'est ça que crée ce type de mesure. Mais on comprend bien que si le couvre-feu, il a lieu toute l'année, les policiers, ils ne vont pas pouvoir être présents toute l'année. Donc c'est des mesures qui n'ont de sens que si elles sont extrêmement temporaires.
Marie-Estelle Pêche, lundi dernier, Gabriel Attal était à Nice pour visiter un internat et il s'est déplacé avec le ministre de la Justice et non pas avec le ministre de l'Éducation nationale. Il était avec Éric Dupond-Moretti et pas avec Nicole Belloubet. Qu'est-ce que ça dit de la vision qu'on a du rétablissement de l'autorité?
Eh ben, ils n'ont pas exactement la même vision des choses. Elle considère qu'elle est là pour éduquer, pas pour rééduquer. Elle s'est tenue, c'est vrai, à distance. Ça a surpris beaucoup dans le milieu éducatif qu'elle ne soit pas présente, parce que ces jeunes, ils sont quand même accueillis dans un lycée. Il y a un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse, l'armée aussi, la police. Et donc il y avait bien un volet Éducation nationale dans
le message. Mais le message, quand il y a avec Éric Dupond-Moretti, c'est attention. Sinon, c'est la casse-prison qui t'attend.
C'est ça.
Si tu continues sur ce chemin.
Ce qui est peut-être délicat dans cette affaire, c'est que ces jeunes que l'on a vus, cette vingtaine de jeunes collégiens accueillis dans cet internat dit de rupture pendant les vacances scolaires, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des délinquants. Ce ne sont pas des primo-délinquants, ce sont simplement des jeunes qui ont été repérés par les services sociaux parce qu'ils traînent effectivement un peu dehors, parce qu'ils sont perturbateurs dans les cours, mais ils n'ont jamais eu affaire à la justice. Donc on est en amont, et pourtant... Vous voyez, c'est effectivement le ministre de la Justice qui se déplace. Donc il y a peut-être un peu un mélange des genres. Je ne suis pas sûre qu'à l'Éducation nationale, ce soit très apprécié, en effet, cette forme de confusion entre délinquance, pré-délinquance, perturbateur dans les cours, enfant qui glisse, qui a des mauvaises relations. Et donc on va mettre en internat pour le sortir de son milieu social qui peut être délétère, qui a de mauvaises fréquentations dans son établissement scolaire, etc.
Bruno, je dis, les Français, on le sait, sont nostalgiques du service militaire. Et à l'époque, on apprenait à se laver, à se raser, à se lever tôt et à obéir. Est-ce que, à quoi ressemblent ces internats où, Marie-Estelle Pech le rappelait, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on ne vous y envoie pas de force, hein. Vous y allez si vos parents et vous-même êtes d'accord.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, les mamans, notamment certaines qui étaient présentes, ont plutôt remercié les autorités, mise à justice et Premier ministre, au fond, de trouver une solution pour s'occuper d'enfants qu'elles n'arrivent plus à tenir et qui justement peuvent avoir ces mauvaises fréquentations, pour reprendre le mot du Premier ministre. Le programme est très... c'est pas des vacances.
Qu'est-ce qu'on y fait alors ?
On se lève tôt.
Ah oui, c'est ce que je disais.
On a une activité culturelle, on a une activité sportive. Je reprends le mot du garde des Sceaux. On n'a plus de téléphone portable, et je reprends le mot du garde des Sceaux, c'est un cadrage. Il ne dit pas recadrage, mais il dit c'est un cadrage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ces jeunes qui ne sont pas encore tombés dans la case délinquance, mais qui en sont pas très loin, c'est essayer de les prendre un peu avant, de les recadrer, en quelque sorte. C'est l'expérience qui est tentée dans cet internat à Nice, une expérience de 15 jours, puisqu'en fait, c'est la totalité, ça couvre la totalité des vacances scolaires. Et donc, sur la base de cette expérience, le Premier ministre et les autorités voudraient généraliser cette expérience et l'étendre, peut-être même avec un programme assez ambitieux. Il faudra aussi des moyens. Là, en l'occurrence, il faut aussi dire qu'il y a la coopération très large des collectivités.
Alors 15 jours, c'est un peu court, peut-être. Quand même,
c'est un peu court, mais au fond, c'est un peu court. Mais on n'est pas dans la phase la phase suivante, qui est là, pour le coup, qui tombe sous l'autorité judiciaire, qui passe à des condamnations, à des mises à l'écart.
Oui, parce qu'on
n'est pas... Vous disiez les Français sont
nostalgiques du service militaire.
Il y a aussi une partie des Français, quand on les interrogeait sur le maison de correction, puisque les internats, quand l'idée a été relancée par Luc Châtel, c'était sous le mandat de Sarkozy, on parlait de l'opposition, dénonçait le retour des maisons de correction. Mais les Français aussi, de toute façon, les Français sont très nostalgiques.
Alors,
en général, ils valident tout ça.
Étienne Girard, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les maisons de redressement, on vous y envoie de force.
Oui.
Où c'est nettement moins... c'est plus décrié, hein, d'ailleurs.
Oui, la différence, c'est la temporalité. L'internat relève, là, l'internat pendant les vacances scolaires, c'est sur la base du volontariat avant toute condamnation. Les centres de...
C'est ce que Jordan Bardella a appelé un stage de citoyenneté.
Oui, on lui laisse cette phrase. Les centres de redressement, ce qu'on appelle comme ça, centres éducatifs fermés dans le jargon administratif, on vous y envoie de force comme alternative à la prison pour mineurs. C'est la dernière étape avant la prison pour mineurs. Il y en a une vingtaine en France. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes fin 2023 très sévère sur à la fois la gestion et les résultats de ces centres éducatifs fermés. Les centres ne trouvent pas de personnel. On a souvent recours à du personnel non formé.
Et donc, qu'est-ce qui s'y passe ?
Ce qui s'y passe, c'est qu'il n'y a pas de résultat probant en termes de récidive. Le ministère de la Justice avançait des chiffres qui ont été battus en brèche par la Cour des comptes, qui a dit non, vos chiffres ne sont pas bons, ils ne sont pas convaincants. Et il y a des violences, pas dans tous les centres. Et il y a des centres qui marchent bien, probablement, mais dans un nombre significatif de centres, il continue à y avoir des violences entre les pensionnaires, les gens qui sont les jeunes, des violences entre eux. Il y a même eu des cas dans des affaires assez horribles, des cas de viol entre membres de ces centres de redressement. Bref, ça marche pas bien. Et les experts, il y a un rapport du Sénat de septembre 2022, d'ailleurs, sur le sujet, les experts disent qu'il faut prendre les choses beaucoup plus en amont, que les centres de redressement, finalement, arrivent à un moment déjà trop tard et qu'il faut recentrer les choses sur le projet professionnel et sur amender le comportement du jeune avant qu'il ait pu commettre un nombre important d'actes de délinquance.
Oui.
Il faut savoir que 75% des jeunes qui sont dans ces centres éducatifs fermés sont suivis ou ont été suivis par l'aide sociale à l'enfance. Ce sont des adolescents qui sont complètement cabossés, qui viennent de familles dysfonctionnelles.
Parents défaillants, comme on a dit.
Parents défaillants ou parents absents, peu importe. Donc on est dans des situations sociales, on est dans le quart-monde en fait souvent, il faut quand même le percevoir ça. Et effectivement, que ce soit ces centres éducatifs fermés, que ce soit d'ailleurs les couvre-feux dont on parlait tout à l'heure, on met une espèce de couvercle sur la marmite sans se préoccuper de tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire les difficultés sociales, de ces familles.
En fait, avant l'école, c'est la cellule familiale qui est absente.
L'absence de, effectivement, de les parents qui sont absents, pas uniquement parce qu'ils sont défaillants, mais parce qu'ils travaillent la nuit, parce qu'ils travaillent trop tôt le matin, parce qu'ils travaillent trop tôt le soir. D'ailleurs, Gabriel Attal en avait parlé il y a quelques semaines. Il avait dit, par exemple, tous les personnels de ménage, etc., il faudrait peut-être arrêter de les faire travailler. Je vais m'engager dans l'administration à les faire travailler en journée et ne plus leur demander de venir à 5h du matin pour balayer ou aspirer dans les bureaux pendant que les employés ne sont pas là. Donc il y a tout ce qui se passe en amont qui n'est pas suffisamment pris en compte. Il y a le problème du décrochage scolaire qui reste quand même très fort.
C'est vrai qu'on entend parfois ce personnel à distance dire à leurs enfants « lève-toi », etc. Et on voit bien que ces personnes...
Voilà. Et encore une fois, l'aide sociale à l'enfance. On a aujourd'hui, par exemple, je crois que c'est dans l'Ille-et-Vilaine, je regardais aujourd'hui, on a 400 enfants qui sont sans solution, qui devraient être placés sur décision quand même judiciaire, qui devraient être placés dans des familles d'accueil. Ils restent dans leur famille maltraitante, violente, etc. Je ne dis pas que tous les délinquants ont été battus, violés, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même un énorme défaut de prise en charge en amont du côté de l'aide sociale à l'enfance. On ne trouve plus de famille d'accueil aujourd'hui. Plus personne ne veut faire ce travail. De même que plus personne ne veut devenir éducateur dans les centres éducatifs fermés.
Parce que c'est devenu trop dur, la violence.
Parce que ce sont des métiers durs qui sont mal payés et où on est confronté de plein front, de plein fouet à la violence. Et c'est difficile. Ouais.
Quand le gouvernement martèle le retour de l'autorité, d'autres répondent par la prévention. Ce responsable associatif, lui-même passé par la case prison pour avoir voulu venger son frère, il en a fait aujourd'hui son combat, sensibiliser les jeunes des quartiers contre les dangers de la violence à travers le dialogue. C'est un reportage de Juliette Perrault et Stéphane Lopez.
À la mission locale de Pierrefitte, dans le 93, il est venu partager son histoire, tragique. Celle de la mort de son petit frère, à l'âge de 19 ans.
Quand tu arrives sur place, à la gare de Garges, tu vois un drap blanc par terre, te dit ton frère il est mort, donc forcément ta vie a bascule. Après on dit oui, bon là maintenant faut aller à la morgue pour reconnaître le corps. Tu rentres, ton frère il est allongé, t'as l'impression il dort pas, il est mort. C'est violent, tu te poses plein de questions, tu te dis non, c'est pas... il va se réveiller.
Mais... Adama Camara a perdu Sada en 2011, tué dans une rixe à Garges, les Gonesses. Un point de bascule et très vite une obsession, la vengeance.
Là, je me dis pour aller mieux, parce que je l'ai toujours entendu, ouais, la vengeance, ça soulage, ça fait du bien. Et je me dis, eux, ils nous ont tués en tuant notre frère, moi, je peux les tuer aussi en tuant leur frère qui est en liberté. Et donc, de là, je me procure une arme et je croise le grand frère et je lui tire dessus à plusieurs reprises. Et derrière, il y a une interpellation, une incarcération. Et dans tout ça, aucun soulagement. C'est là que je me dis, je suis tombé dans ce piège.
L'homme sur lequel il a tiré échappe à la mort. Lui fait 4 ans de prison et en ressort avec une conviction. Il faut mettre fin aux rixes dans les quartiers. Ce jour-là, autour de la table, deux jeunes adultes qui partagent le même projet. Inquiets de voir la nouvelle génération de plus en plus marginalisée.
Ce que tu as vu, là, on arrive à un stade où c'est chaud dans nos quartiers. Les jeunes ne savent même plus parler, ils ne savent même plus de quoi ils parlent. Leurs références, elles sont nazes.
Vocabulaire, les mots.
Vocabulaire, il n'est pas là. Ils ont plus de sens, ils ont plus de conscience économique, conscience de culture, tu vois ou pas?
Je me suis beaucoup rendu compte que les jeunes, ils prennent énormément de retard, tu vois, parce qu'ils glorifient la rue pendant un certain temps, et quand ils se rendent compte que c'est pas vraiment leur place, ils retournent travailler pour des salaires misérables, entre guillemets.
Des jeunes omniprésents sur les réseaux sociaux aussi, où les violences urbaines sont exacerbées.
Tout pour les vues, c'est ce que les jeunes y disent, tout pour les vues. Donc oui, les réseaux sociaux, ça amplifie. Demain, un jeune se fait lyncher. Une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux, qui est prise par les grandes chaînes de télé, bah, les jeunes, ce jeune-là qui s'est fait lyncher ou ce quartier-là qui a perdu, ils vont se dire, nous aussi, demain, on veut passer sur BFM, sur CNews et compagnie. Donc nous aussi, on va vouloir avoir la vidéo qui va choquer et après, on va pouvoir être fiers. On en est là.
Hein. Une perte de repères et une réponse politique loin d'être à la hauteur aux yeux d'Adama Camara.
On a l'impression qu'on a une jeunesse de sauvage. Des fois, on entend sauvagement, on entend ces jeunes n'ont plus de respect. En fait, comment voulez-vous, franchement, comment voulez-vous que les jeunes changent d'attitude avec les termes qu'on emploie sur les jeunes? C'est comme aussi, j'ai vu qu'il y avait marqué fauteur de troubles pour les jeunes. Donc, on va tamponner fauteur de troubles chez un jeune. Il est catalogué fauteur de troubles, ben, il va s'enfermer dans ce personnage de fauteur de troubles. Pourquoi il va changer? Parce qu'en faisant ça, même en étant fauteur de troubles, il est entre guillemets valorisé à sa manière. Au moins, on parle de moi.
Sa méthode à lui, le dialogue.
Selon chaque quartier, est-ce que tu as vu des résultats différents? Est-ce que ça a marché, en fait?
Moi, j'en ai rencontré des jeunes qui, après, sont plus dans les rixes, ils m'ont pas forcément m'envoyé un message pour me dire « Adama, aujourd'hui, je taffe ou je fais autre chose. » Des jeunes qui ont arrêté clairement, qui font autre chose. J'ai des jeunes aussi que j'ai rencontrés qui finissent en prison. Tu vois, c'est aussi une réalité. Faut pas se mentir, faut se dire la vérité.
Ne pas se faire d'illusions, mais se donner tous les moyens pour en sauver ne serait-ce que quelques-uns. Le combat d'un grand frère qui, comme beaucoup d'autres, a perdu trop vite l'un des siens.
Driss Saïd Youssef, question téléspectateur. Les mineurs d'aujourd'hui sont-ils réellement plus violents? On a beaucoup entendu parler des jeunes comme s'il y avait un... Et qui existent par la violence, comme si pour se valoriser auprès du groupe, auprès de la bande, il fallait être le plus caïd de la bande. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là qui peut expliquer cette surenchère de la violence?
Certainement. Et en fait, ce qu'on assiste, on assiste à un double phénomène. D'abord, le premier, ça a été dit très justement par l'intervenant, c'est-à-dire que une espèce d'appauvrissement intellectuel du jeune. Et en fait, on va prendre deux éléments de comparaison. Les émeutes en novembre 2005, avec des journalistes qui faisaient parfaitement bien leur travail et qui allaient sur le terrain, allaient interviewer les jeunes qui se mobilisaient. Ils avaient un français à peu près impeccable. Ils avaient des motivations politiques. Ils expliquaient que, bah, en fait, ils n'étaient pas des Français à part, mais des Français à part entière, et qu'ils justifiaient d'une certaine manière. Alors, on peut condamner les actes, évidemment, mais ils avaient un discours politique. Vous prenez l'année dernière, il y a un peu moins d'un an, violence en juin-juillet de 2023. Des gamins ne savaient même pas pourquoi ils allaient saccager des magasins de sportswear, de téléphonie mobile. Il n'y avait pas de revendication politique. On assistait même à une espèce de revendication. C'était totalement affligeant. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, on le dit souvent, une espèce de violence qui est, en tout cas, des actes qui sont de plus en plus violents. Alors, il y a un débat d'experts qui dit, ah oui, mais sur 2022, on n'a pas plus de jeunes mis en cause en 2022 que les présentes années. La réalité, c'est qu'en fait, les données qu'on a agrégées depuis maintenant 2012, 2013, même jusqu'à 2016, on a quand même une première révolution, et là, en 2023, on aura des statistiques meilleures qui vont nous donner une indication sur le nombre de jeunes mis en cause. Et le nombre de jeunes mis en cause, ça ne veut pas dire le nombre de jeunes condamnés. On a quelques indicateurs, notamment sur des jeunes qui sont mis sous écrou. On a une augmentation de 20%. de mineurs mis en détention. Premier indicateur. On voit des maires, on voit des préfets. Par exemple, le préfet, il dit, moi, sur le premier trimestre 2024, j'ai tout simplement une évolution spectaculaire de 50% de la délinquance qui m'oblige à prendre cet arrêté. Donc, en 2024, on va avoir des premières tendances qui impliquent ou pas des mineurs. Est-ce qu'on a plus de mineurs délinquants? Est-ce qu'on a des actes de délinquance de ces mineurs qui sont de plus en plus forts? Donc, je pense que là, on va avoir peut-être des éléments de réponse et qui vont ensuite, après, donner, en tout cas, permettre à la puissance publique de mettre en place une politique publique.
On parlait de familles défaillantes. Est-ce que, du coup, la bande est devenue la famille avec un code qui serait le code du virilisme.
Ce dont on constate aujourd'hui, ce qu'on constatait avant, c'est qu'au fait, vous avez toujours des bandes, vous avez des bagarres, ça a toujours existé entre bandes. Avant, il y avait une logique d'appropriation du territoire. Je suis dans ma cité, tu viens pas dans ma cité, je vais pas dans la tienne. Aujourd'hui, on a un phénomène qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des bandes qui vont peut-être affronter, qui vont aujourd'hui saccager en centre-ville, ce qu'on voyait pas en 2005 et qu'on a vu pendant les émeutes en juillet dernier. On a des individus qui vont aujourd'hui, au-delà de leurs revendications territoriales, des bandes extrêmement violentes. Substitution à la famille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez avant le repas, le midi ou le soir, c'était là où on pouvait discuter avec les parents, ce qui est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, vous avez, on a parlé des réseaux sociaux, mais pas que, les messageries cryptées de type WhatsApp ou Telegram permettent d'une certaine manière à des groupes de discuter, de dialoguer entre eux et de rester entre eux. Et donc, c'est un substitutif d'une certaine manière à la famille, où l'autorité parentale va se substituer, ou en tout cas
le chef de bande.
Eh bien sûr, et on le voit de plus en plus quand on voit effectivement des mineurs aujourd'hui qui sont pris en charge. Pourquoi on a des arrêtés qui sont passés aussi pour protéger les mineurs? Alors on dit oui, non mais d'accord, mais parce qu'on a plus de mineurs mis en cause, mais c'est aussi pour protéger les mineurs.
Étienne Girard, on a entendu dans le reportage avoir la vidéo qui va choquer et en être fier. Est-ce à dire que la jeunesse, plus que nous, il y a 30-40 ans, on est plus exposée aujourd'hui à des images de violence qui peut l'influer et infuser en tous les cas?
Oui, c'est vraiment ce qui remonte du terrain comme la nouveauté et ce qui a changé par rapport à avant. Parce que les bandes, en soi, c'est pas une nouveauté. Et les bandes plutôt que la famille, c'est pas une nouveauté. Les blousons noirs dans les années 50, c'était déjà des bandes et c'était déjà des mineurs. Mais ce rapport à la violence et, disent certains policiers, ce cynisme dans le rapport à la violence, ça, c'est nouveau. Il y a un comportement, une anecdote, on peut peut-être la raconter, qui a particulièrement marqué les policiers à Grande-Synthe dans l'affaire du meurtre
Philippe Kaufmann, qui a été tué par deux adolescents de 14 et 15 ans à coups de chaussures sur sa tête.
Exactement. Il y a un des adolescents qui est en garde à vue. On lui montre des photos du visage défiguré de Philippe, et ce jeune se met à esquisser un rictus, un début, il commence à rigoler. Ce comportement-là, les policiers ne le voyaient pas avant. Ce rapport décomplexé, si je puis dire, à la violence, cette banalisation d'une sauvagerie extrême, ça, oui, dans les remontées de terrain, et ça apparaît pas, c'est vrai, dans les statistiques à la fin de l'année, quand on regarde le nombre de condamnations, ça n'apparaît pas, mais cette intensité et ce cynisme nouveau, oui, les policiers en parlent.
Alors, face à cette montée de la violence, on l'a dit tout à l'heure, Marie-Estelle Pech l'a dit, hein, il y a de moins en moins d'éducateurs, il y a de moins en moins de familles d'accueil, et plus grave, on commence à avoir des maires, des élus qui commencent à vouloir rendre leur tablier. Je vous propose d'écouter ce témoignage du maire de Villerue, c'est en Moselle, il s'appelle Pierre Pizac. Sa ville, l'an dernier, a été l'objet d'une fusillade sur un point de deal. Fusillade à seulement 50 mètres de la mairie et 100 mètres d'un commissariat. Ce maire est désabusé, une équipe de C'est dans l'air l'avait rencontré récemment. Je vous propose d'écouter son témoignage.
Quand on est élu, on ne signe pas pour ça, quoi. On ne signe pas pour gérer normalement l'histoire des points de deal. On est là justement pour améliorer le quotidien. Et aujourd'hui, ben, le quotidien, en tout cas la sécurité du quotidien, n'a pas été assurée. Et malgré tout, c'est les nombreuses alertes que nous, on a fait auprès du ministère. Et les alertes, elles sont depuis 2020. C'est-à-dire qu'on a fait des réunions publiques pour alerter la population. On a fait une manifestation en centre-ville. On a même occupé le commissariat. pour donc l'hôtel de police et le commissariat justement pour dire ben voilà, il manque aujourd'hui, il manque 17 enfin à l'époque c'était manqué 17 agents de police, mais sauf qu'à chaque fois on met des pansements sur on met simplement des pansements, puis après c'est aux élus de devoir gérer le service après-vente des manquements de l'État.
Bruno, jeudi, face à ce maire désabusé, les Français, 85% des Français disent la justice est trop laxiste.
Oui, c'est le sentiment que les Français ont et ça fait déjà quelques années en fait qu'il y a ce sentiment que la justice est trop laxiste. Moi, je crois qu'en fait, pour les Français, c'est plutôt que la justice est trop lente. Trop laxiste, ça se discute quand même, parce qu'on voit bien, alors, il faudrait rentrer catégorie par catégorie, il y a plusieurs choses. La justice trop laxiste, on a vu que après les émeutes, elle n'avait pas été la justice, elle avait plutôt été rapide, les peines sont tombées, elles étaient dures. Il y a un point qui reste, à mon avis, problématique pour la justice, c'est l'effectivité de la peine.
L'exécution.
L'exécution de la peine et même l'effectivité de la peine quand il y a condamnation.
Les gens sortent, il y a des condamnations qui ne sont pas faites.
Où les gens sortent rapidement, faute de place, voilà. Donc, et ça parasite complètement le rapport que les Français ont avec la justice. C'est-à-dire qu'en plus, dans le quartier, le type ressort vite, ou il n'a pas été condamné, ou le procès tarde à venir. Donc c'est ça qui, à mon avis, donne ce type de résultat qu'il faut analyser complètement, c'est-à-dire l'effectivité de la peine, l'exécution de la peine, la lenteur de la justice. En tous les cas, le résultat n'est pas au profit de la justice. Alors, il faut reconnaître que ce gouvernement, depuis 3 budgets maintenant, essaie de rattraper
la sanction tombe plus vite après les faits.
Ça passe par des moyens. C'est-à-dire que le budget est en forte hausse depuis maintenant 3 budgets. Et il y a un rattrapage parce que l'administration judiciaire a été le parent pauvre des lois de finances depuis 20-30 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'os sur manque de magistrats un peu partout. Alors, il y a un rattrapage. Maintenant, les magistrats sortent en école en plus grand nombre et il y a des affectations plus importantes. Le maire de Marseille me disait la semaine dernière, 70 auxiliaires de justice affectés cette année en plus sur le ressort de Marseille. À Marseille, je suis sûr qu'on dit c'est pas assez, mais le maire lui-même dit c'est pas rien. C'est 200 policiers également, donc ça arrive, mais ça va prendre du temps pour rattraper. Et dans beaucoup d'administrations régaliennes, c'est comme ça. Le rattrapage en termes de policiers, c'est plutôt a commencé il y a un peu plus quelques années, donc ça rattrape. Mais là, en justice, ça va sans doute prendre encore beaucoup de temps. Et reste une question qui est la question des prisons. Les places de prison, on est loin du compte. 4 500 sur les 15 000 promises par Emmanuel Macron. Le garde des Sceaux espère arriver d'ici la fin de l'année prochaine à la moitié des places promises. Mais on voit bien que c'est long. Il faut ajouter sur ce point-là que ceux qui réclament des places de prison, souvent à droite, souvent localement les maires de droite, trouvent très bien de construire des prisons,
mais pas ailleurs,
ce qui rend
pas dans mon jardin. La construction des places, quand on a un casier judiciaire, est-ce que sa vie est foutue derrière?
Toute la difficulté, peut-être juste un petit mot sur quand on dit que la justice est laxiste. La réalité, c'est pas vrai. On a aujourd'hui 77 000 détenus, ce qui est un record absolu. 77 000 détenus, ça veut dire pour 61 000 places de prison, c'est un taux de surpopulation carcérale de 145. On a à peu près 3 000 personnes qui dorment sur des matelas au sol. Il manque à peu près 2700 surveillants de prison. Il y a à peu près l'année dernière, sur 2023, à peu près 5000 agressions de surveillants. Donc, il y a le ministère de la Justice, c'est à la fois l'administration pénitentiaire d'une part, et le ministère de la Justice, donc la justice judiciaire et les magistrats. Et là où on a un vrai problème, c'est que plus vous êtes dans une forme d'embolie dans les prisons, plus vous avez un taux de récidive qui augmente. Le taux de récidive au bout d'un an, je crois que ça doit être 40%, et suivant si vous êtes sur des sorties sèches, ou des sorties préparées, vous avez un taux de récidive qui va augmenter. Surtout si vous êtes un primo-délinquant ou si vous avez déjà été condamné une fois, si vous êtes en
donc
récidive.
La prison n'amende pas, quoi.
Voilà.
Elle sanctionne,
donc,
mais...
Effectivement.
Alors,
et donc ensuite...
Mais je vous en prie.
Oui.
Alors, on s'interroge sur le rôle... On parlait tout à l'heure du rôle des réseaux sociaux dans cette flambée de la violence. Gabriel Attal les a récemment qualifiés de catastrophes sécuritaires. Le drame autour de la mort de Philippe Kopmann, dont on a parlé tout à l'heure à Grande-Synthe, a mis la lumière sur un site de rencontre utilisé par des jeunes pour mettre en place des guet-apens. Explication de Aubry Perrault, Lucas Campisi et Juan Nguyen.
Comment
Philippe Kopmann, battu à mort la semaine dernière à Grande-Synthe, est-il tombé sur ses agresseurs ? Très vite, dans les journaux, un nom de site apparaît, Cocoland. Le jeune homme de 22 ans a-t-il échangé sur ce site de rencontre ? Les mineurs mis en cause l'affirment.
Il mentionne avoir fixé un rendez-vous avec la victime via un site internet de rencontre dénommé Cocoland, en se faisant passer pour une jeune fille mineure.
Les proches de Philippe Kopmann démentent. Si l'hypothèse est prise au sérieux par les enquêteurs, c'est que ce site de discussion très facile d'accès s'est fait une réputation ces derniers mois, régulièrement cité dans des faits divers.
Tout le monde est au courant, et le gouvernement est au courant, et rien n'est fait pour que l'on ferme ce site. Donc nous appelons à la fois à sa fermeture et puis ou à son boycott, puisque les usagers de bonne foi nécessairement risquent de tomber sur ces prédateurs, sur ces criminels.
Les réseaux sociaux, à l'origine de guet-apens, peuvent aussi être une vitrine de la violence. Comme avec le phénomène du happy slapping, qui consiste pour un agresseur à filmer la scène et la diffuser sur Internet. Ici, début janvier, ces collégiennes s'acharnent sur une de leurs camarades. Phénomène inverse lorsque la violence démarre en ligne, comme à Montpellier début avril, où Samara est violemment agressée devant son collège. Certains collégiens avaient accusé sans preuve l'adolescente d'avoir publié des photos dégradantes d'autres élèves.
Et ils ont cru que c'était elle, ils ont dit ouais c'était elle, et c'est pour ça ils l'ont frappée. Au lieu de l'écouter, les gens ils la prenaient pour une menteuse.
Quelques jours plus tard, en région parisienne, un adolescent succombe à ses blessures après avoir été roué de coups devant son établissement. Parmi les responsables, selon le Premier ministre, les réseaux sociaux encore. Gabriel Attal promet une loi pour mieux encadrer leur utilisation.
Les réseaux sociaux sont un accélérateur de haine et un catalyseur de violence. Tout y semble permis, tout y semble dissible, tant et si bien que cela devient le cas dans la réalité.
En attendant une loi, les victimes sont déjà là. Cette plateforme téléphonique répond aux problèmes de harcèlement tous les jours de l'année. Et la moitié du temps, tout a commencé en ligne.
C'était sur quel réseau social ?
Comme ça, elle sait déjà ce qui se passe.
Ok, sur Facebook. Et qu'est-ce qu'on y voyait sur ces posts et
Vous mettez bien le lien URL de la publication et du compte qui a été à l'origine de cette diffusion.
Grégory Hertfours et ses collègues reçoivent jusqu'à 400 appels par jour et des témoignages écrits. L'équipe écoute et agite aussi.
Nous, en tant que juristes, on va se battre avec le réseau social, en tout cas ensemble, pour faire appliquer ces droits en disant là, il y a une infraction qui a été réalisée, on vous demande du coup de prendre des mesures. Ça, le réseau social est bien entendu libre de prendre les mesures qu'il a envie de prendre. Nous, on demande bien entendu souvent la suppression du compte.
Solutions immédiates, mais défis de long terme, selon le directeur, qui compte également sur les parents.
Les adultes nous disent souvent « ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps, je ne sais pas faire » parce que moi-même, je n'avais pas les outils numériques quand j'étais jeune. On peut tout à fait le comprendre. Pour autant, aujourd'hui, c'est un fait. Une grosse partie des mineurs sont équipés d'outils numériques et il n'est pas normal que les adultes ne puissent pas porter un avis sur ce que font les jeunes dans ces espaces.
La plateforme a doublé ses appels ces derniers mois, mais ne compte pas suffisamment de personnel pour y répondre. Son directeur demande à l'État d'avoir les moyens de ses ambitions en matière de harcèlement.
Alors Marie-Estelle Pech, vous avez fait quelque chose que notre génération ne sait pas faire. Vous êtes allée sur Coco, fameux site où Philippe Kopmann, enfin soi-disant, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit lui d'ailleurs, qu'il ait été, mais où les deux jeunes ont voulu entendre le guet-apens.
Il aurait été piégé en le rencontrant via ce fameux site Coco qui existe quand même depuis 2003. C'est très vieux.
Ouais.
et effectivement, il est connu parce que vous avez eu tout un tas de faits divers absolument abominables qui se sont passés à cause de ce site, notamment un homme qui, après avoir drogué sa femme, l'a vendu demander sur le site Coco à une cinquantaine d'hommes qui vont passer.
Alors comment on y va sur l'année prochaine ?
Alors on s'inscrit en deux clics. Hein. C'est on peut raconter n'importe quoi, on peut donner un faux prénom,
un pseudo, son âge.
Moi j'ai raconté que j'avais 18 ans, hein, c'est pas le cas. On peut dire qu'on est un homme, peu importe. Et puis donc voilà, vous racontez n'importe quoi, il n'y a strictement aucun contrôle d'identité, bien entendu. Alors que maintenant les sites de rencontres, vous avez quand même par exemple vous devez donner parfois votre carte d'identité, enfin vous avez un peu plus de contrôle habituellement, et c'est ce qui fait d'ailleurs le succès de ce site hein, depuis 20 ans qui ne se dément pas. Et vous avez tout un tas de sous-catégories absolument terribles, ça va de la du partage d'images absolument abominables, pornographiques, d'histoires de d'hommes âgés qui cherchent des mineurs, enfin c'est assez incroyable. Vous avez vraiment accès à des sous-catégories dont on se demande pourquoi elles n'ont pas été interdites. Et quand on regarde les raisons pour lesquelles ce site n'a pas été interdit jusque depuis 20 ans, c'est tout simplement d'une part parce qu'il est hébergé à l'étranger. Il appartient à une société bulgare, il est hébergé dans les îles anglo-normandes. Donc on pourrait certainement réguler davantage quand même, quoi qu'en disent les juristes. Mais il faut aussi dire que les policiers, pour eux, c'est peut-être pas inintéressant qu'il continue à exister ce site, parce qu'ils peuvent facilement tracer les gens qui y vont. D'ailleurs, ils ont arrêté récemment un chanteur des années 70, septuagénaire, parce qu'il essayait d'alpaguer des gamines de 13 ans, en des termes que je ne préfère ne pas expliciter ici. Et si vous voulez, ils ont un contrôle beaucoup plus facile sur ce type de site que sur du dark web. C'est-à-dire que si on le ferme, ce site, et ben les gens vont aller sur des sites beaucoup plus cachés, beaucoup plus difficiles, sur lesquels les policiers n'auraient moins la main, etc. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on est dans une forme de statu quo. En tout cas, c'est ce que m'a dit un commissaire. Il m'a dit c'est... Bon, de toute façon, pour le fermer, encore une fois, il faudrait un accord international, il faudrait sur un plan judiciaire, je pense que ce ne serait vraiment pas simple.
Étienne Girard, est-ce que voilà, c'est l'un des drames, c'est que nos enfants, en deux clics, ont accès au pire des sauvageries ?
Normalement, non. Normalement, il y a à la fois des interdictions légales pour
le porno, les cocos.
Normalement, le porno, c'est interdit aux moins de 18 ans. Ça, c'est le volet légal. Effectivement, en deux clics, on peut y avoir accès. Encore que, on peut installer un filtre parental sur le téléphone de son enfant. Mais c'est vrai que ça, c'est pour la théorie. Dans la vraie vie, oui, c'est le cas.
Dans la pratique, ils y sont.
Dans la vraie vie, oui.
La secrétaire d'État en charge du numérique, Marina Ferrari, s'appuyant sur une directive européenne, essaie de renforcer justement les interdictions, tous les pare-feux pour empêcher les jeunes de pouvoir avoir accès aux images porno sur les
sites qui sont à l'étranger,
oui,
c'est compliqué.
Tout à fait, ouais, c'est compliqué. Et justement, il y a un travail qui est fait au niveau d'une directive européenne qui doit être plus ou moins retranscrite dans le droit français. Mais enfin, c'est compliqué. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est de mettre en œuvre ces décisions techniquement.
Et des parents qui sont totalement... C'est pas notre génération, on sait pas faire, on n'est pas à l'aise, on n'arrive pas à contrôler, à mettre du temps d'écran.
En plus, l'exposition aux écrans et à Internet, aux réseaux sociaux, elle est partout. C'est que vous pouvez barricader chez vous votre environnement numérique pour que vos enfants n'y aient pas accès. Ils y auront accès à l'école avec leurs copains. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de cas. Donc c'est vrai que cette génération, la nouvelle génération, a une exposition à la violence et à des images choquantes qui est à un niveau supérieur à ce que les générations précédentes ont connu. Et ça crée effectivement un certain nombre de réactions en chaîne, avec en plus, et là c'est le cocktail explosif, certains réseaux sociaux qui sont pensés de façon volontaire pour créer une accoutumance des jeunes, en particulier TikTok, dont à la fois l'algorithme et les règles internes récompensent celui qui reste le plus longtemps possible.
Donc on a les enfants abrutis qui peuvent passer 4 heures à regarder des vidéos idiotes.
Il y a une inflation actuellement de projets, de propositions de loi au Parlement. Alors, il y a,
pour interdire le fameux TikTok qui vous récompense si vous passez beaucoup de temps.
Pas seulement. Il y a d'abord, il y a une proposition proposition de loi pour les moins de 3 ans pour essayer vraiment de bannir tout accès aux écrans pour les moins de 3 ans, bon, on verra. Ouais. Il y a une autre proposition de loi au Sénat pour interdire l'utilisation des smartphones dans les collèges, mais vraiment, c'est-à-dire ce qu'ils essaient de faire normalement. Hein. Et puis surtout, on attend les conclusions de la commission écran qui a été constituée par le président de la République et qui doit normalement rendre ses conclusions là dans les 2-3 semaines qui viennent.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Frédéric dans le Vaucluse. Bruno Jeudy, un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Suis-je candide pour m'étonner que des jeunes de cet âge soient dehors la nuit ?
Mais non, ça existe. Ça existe. Hein. Encore une fois, c'est quand même c'est certaines villes, certains quartiers, c'est pas toute la France. Faut toujours essayer de mettre de la mesure, mais ça existe. La question du couvre-feu, on l'a dit, a plusieurs fois été mise sur la place publique et même les maires y ont eu recours à plusieurs reprises, notamment dans des cas d'émeutes. Alors il y a eu au moins trois cas, mais oui, ça existe. Et si les maires, notamment dans les villes du Sud, veulent le mettre en œuvre, c'est parce que ça existe dans leur commune. Il faut jamais, évidemment, oublier les arrière-pensées politiques, parce que un maire qui communique sur le couvre-feu, c'est aussi de la communication politique. Mmh. Mais c'est une solution pour les maires. Vous savez, globalement, c'est quand même des élus de terrain. Hein, s'ils le font, en plus, souvent, c'est des maires qui sont quand même élus et réélus. S'ils le font, c'est aussi d'abord, c'est une demande du terrain. Et puis aussi, peut y avoir une forme d'efficacité. Alors encore une fois, ça a été dit hein, par Driss. Franchement, c'est sur des périodes très courtes, sur des territoires très délimités. Ça ne marche pas si ça devient comme ça une espèce de truc général. Hein.
Driss Saïd Youssef, Didier, policier. Comment voulez-vous que l'on surveille ces gosses ? On manque d'effectifs et ils peuvent nous tromper sur leur âge.
Alors, c'est un peu plus compliqué de tromper sur leur âge parce que vous voyez bien que d'abord, quand il a moins de 18 ans, et la plupart des arrêtés, c'est moins de 18 ans, vous l'emmenez au poste et puis soit il justifie d'une pièce d'identité ou vous appelez les parents qui viennent avec une pièce d'identité pour justifier effectivement qu'il a plus ou moins de 18 ans. Mais là encore, effectivement, on ne règle pas le problème de fond qui est un problème, encore une fois, structurel. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez aussi de la promiscuité chez ces gamins qui ne peuvent pas rester parce qu'il fait chaud. On l'a vu pendant le Covid où c'était absolument insupportable, où c'était un peu infernal. La solution, vraiment, elle se construit dans la durée, y compris et surtout avec les collectivités. Vous l'avez parfaitement dit, le département avec l'ASE, avec l'aide sociale à l'enfance, c'est vraiment une conjoncture, une coordination de politique publique qui va permettre de régler durablement cette question liée à la jeunesse.
Qui faut-il sanctionner, les enfants ou bien les parents ?
Alors, on peut sanctionner les parents. Le problème, c'est que les peines existent en réalité. Il n'y a aucun problème. Alors, le gouvernement, je crois, a le projet de durcir la loi concernant les amendes pour les parents. Mais la loi actuelle n'est pas appliquée, est rarement appliquée. On condamne rarement des parents à de la prison ou à des peines d'amende parce que leur enfant est délinquant. Donc, on peut durcir, effectivement. Il y aura peut-être un effet dans un premier temps. On va en parler, peut-être un petit peu dissuasif. Mais moi, je ne suis pas très convaincue par ce durcissement permanent. C'est comme quand on dit qu'il faut revenir sur l'ordonnance de 45, sur les mineurs, la redurcir. Chaque fois qu'il y a des émeutes, chaque fois qu'il y a un fait divers, on reparle de l'ordonnance de 45.
Mais mettre les parents quand même devant leurs responsabilités, moi je pense
que c'est quand même...
Et surtout, ce qui est intéressant dans la piste qui est avancée, c'est les deux parents. Les deux parents sont... parce que souvent... ces familles monoparentales, souvent c'est la maman qui se retrouve un peu seule. Et là, en fait, il y a obligation pour les deux parents, par exemple, de déférer devant les convocations au pénal, voire devant les audiences civiles.
Encore faut-il qu'il ait l'autorité parentale. Et dans un certain nombre de cas, on est sur des familles monoparentales où seule la mère dispose de l'autorité parentale. 60% des émeutiers mineurs condamnés pendant l'été 2023, à l'issue de l'été 2023, sont issus de ces familles monoparentales. Ah ouais. Donc c'est un chiffre énorme, c'est majeur.
Dominique, qui est enseignant, le couvre-feu ne devrait-il pas concerner tous les mineurs en âge d'être au collège, donc de moins de 15 ans ? Alors on en revient sur cette justification de 13 ans qui est juridique, hein, parce qu'à 13 ans, le code pénal dit que vous n'avez pas le discernement, c'est vos parents qui doivent décider.
Ouais, c'est un code qui est très particulier, mais effectivement cette notion liée à la fois au discernement, réputé moins de 13 ans, n'a pas effectivement été même pas en capacité de faire preuve de discernement, mais c'est d'une manière générale la notion liée aux libertés. C'est-à-dire que si vous le prenez dans un temps très court, ça va, mais dans la durée, vous ne pouvez pas interdire à un gamin d'aller d'un point A à un point B, sauf pour des des raisons très particulières. Donc ça marchera pas.
Mais il y a une notion d'âge en 4e, 3e, c'est là où les garçons commencent à vraiment à faire des bêtises et c'est là où il faut un peu les avoir reine courte.
Ça dépend des territoires, ça dépend des parents.
On sait qu'en tout cas, ce qui se dit au gouvernement, c'est qu'on a une espèce de recrudescence des effets de groupe entre 13 et 15 ans, entre mineurs.
C'est vraiment le collège.
C'est
l'entrée au collège. C'est même l'entrée au collège aujourd'hui.
Allez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner, C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.